Conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph, le 29 juillet 1987.
Puisque nous fêtons Sainte-Marthe aujourd'hui, et que nos sœurs contemplatives habitent chez Sainte-Marthe, il y a une double raison de s'arrêter un peu à Sainte-Marthe. C'est-à-dire pour nous, voyez, Dieu a mis, étant donné notre fragilité et notre faiblesse, puisque c'est la raison pour laquelle saint Thomas dit qu'il multiplie les intermédiaires et la médiation, quand il s'agit justement de certains qui sont particulièrement fragiles, parce qu'ils sont particulièrement faibles. Tu as voulu que, pour nous, Sainte-Marthe soit très proche, encore cachée, mais bientôt, on l'espère, quand même proclamée par l'Église. Alors on a le droit dans l'intimité de parler de Marthe le jour de la fête de sa patronne, et de savoir que pour nous, il y a cette médiation très particulière, très spéciale de la petite Marthe. Dieu l'a placée sur notre route. Et quand Dieu met sur notre route, et pour certains d'entre nous, presque au berceau, il y a des privilégiés quand même qui ont ce privilège, surtout peut-être quand ils étaient tout petits, d'avoir été déposés sur le lit de Marthe. Ses bras, elle ne pouvait pas, elle était dans l'impossibilité de prendre un petit enfant dans ses bras. Ça faisait partie de sa pauvreté, et c'était une grande pauvreté pour Marthe. Il ne faut pas l'oublier, je vous l'ai dit une fois, et j'ai senti tout ce que ça représentait. C'était une étudiante de Paris qui voulait à tout prix voir Marthe. Un seul moyen, vous savez, c'est d'assister à une retraite. Ça, c'est de laisser passer. Comme ça, on peut. Alors, comme elle me connaissait bien, elle m'a dit, est-ce que ce serait possible d'assister à une de vos retraites? J'avais demandé, on m'avait dit oui. Alors, cette étudiante, qui était très brave, très, très fière, très, très pleine d'initiative, lorsqu'on lui a dit que c'était le jour d'aller voir Marthe, elle tapait à ma porte, elle m'a dit, mais je dois aller monter voir Marthe, j'ai une de ses frousses. Est-ce que vous pouvez pas venir avec moi? Elle m'a dit, si vous voulez, je vais faire attendre les gens sans moins d'importance, je vais monter avec vous. Alors je suis monté avec elle, et pendant qu'on montait à pied, elle prenait, elle cueillait les quelques fleurs qu'elle pouvait voir dans le champ. Pour les offrir à Marthe, c'était gentil de sa part, petit geste. Et quand elle arrive alors, par derrière, mettant la main sur le bras, tellement elle tremblait, et elle dit, Marthe, voilà des fleurs. Alors elle pensait que Marthe allait tendre la main pour les prendre. Elle a, ma petite, mettez-les sur moi. C'est alors que les petits enfants qu'on lui présentait, elle devait faire la même chose. Mettez-les sur mon lit quelques instants pour qu'elle les porte et qu'elle les envoie au Seigneur. Je crois que cette année-ci, c'est particulièrement important pour nous de penser à cela, puisque nous savons que la cause de Marthe commence, elle n'est pas encore officielle d'une façon absolue, elle commence du côté de Châteauneuf. C'est Châteauneuf qui doit de fait donner une biographie critique sur la vie de Marthe. assez particulier comme croisade, mystérieuse et mystique, et que tout ça doit aller ensuite à l'évêché de Valence. Et c'est l'évêché de Valence qui ouvrira alors vraiment l'information au point de vue canonique sur le procès de béatification de Marthe. Alors c'est pour ça que je crois qu'on doit prier spécialement cette année-ci pour que le démon ne fasse pas des obstacles. Faut pas croire que ça se fait comme ça. Marthe est dans la paix du ciel, mais sur la terre le démon rugit et continue de rugir comme il a toujours fait du temps de Marthe. Il l'a jamais laissé très tranquille. Il a dit que jusqu'à la fin il la poursuivrait. Et pour le démon, la fin c'est la béatification, c'est la canonisation de Marthe sur la terre, parce que c'est pas la même chose, hein. Qu'elle soit désireuse d'être toute cachée. On comprend très bien, c'était son désir. Elle avait un grand désir d'être toute cachée. Mais nous devons avoir le désir qu'elle soit connue et qu'on puisse la prier officiellement. Pas seulement intérieurement. Intérieurement, on peut le faire. Ça, c'est bien évident. Vous pouvez faire des neuvaines particulières et intérieur à Marthe, mais officiellement on peut pas dire une messe officiellement en l'honneur de Marthe. On peut le faire officieusement mais pas officiellement. Je dis ça pour le sacristain, autrement il aurait aujourd'hui transformé, dire aujourd'hui c'est une messe en l'honneur de Marthe. Non, c'était Sainte Marthe. Et c'est vrai, officiellement, on ne peut pas, on doit rester dans notre lien secret avec Marthe. On doit essayer de comprendre, dans l'économie divine, la place que Marthe a eue pour l'Église. Je crois qu'on doit le faire. Parce que quand quelqu'un reçoit les charismes qu'elle a reçus, les stigmates, la couronne d'épines, le coup de lance, c'est toujours pour toute l'Église. C'est pour une œuvre particulière. Mais cette œuvre particulière, elle s'étend à toute l'Église. Le jour où Marthe sera béatifiée ou canonisée, ce sera encore beaucoup plus pour toute l'Église. Les foyers de charité continueront de rester très proches d'elle, mais ils devront accepter un acte de pauvreté, de faire que Marthe est pour toute l'Église, est à toute l'Église. Déjà, de son vivant, c'était comme ça, mais de son vivant, on est conditionné par le temps et le lieu. Et donc, étant fixé à tel lieu, Marthe était forcément fixée au foyer de charité de Châteauneuf. Tandis que dès qu'elle est dans la gloire, elle n'est plus fixée dans tel lieu. Il y a encore les lieux qui demeurent et qui permettent de faire des pèlerinages. Mais l'influence de Marthe peut dépasser, et c'est ce qui se fait du reste. Elle dépasse, et dans l'enquête qu'ils font à Châteauneuf, ils ont bien le soin, heureusement du reste, de bien montrer toute l'influence de Marthe sur l'Église. Ça, c'est très très net. Et on comprend, on n'a pas le droit, dès que quelqu'un est mort, de le garder pour soi. Mais c'est peut-être le geste, l'anonymat, le corps remis à la terre. Il est remis à notre monde. C'est très curieux. Et si Dieu garde intact un corps, ce n'est pas pour qu'il soit lié lié à tel lieu et il est remis à toute l'humanité, à tous les hommes. Mystère du sépulcre. Le mystère du sépulcre, c'est cette espèce d'éclatement qui fait qu'à partir de ce moment-là, on n'appartient plus à tel endroit. On est remis à la terre. Et c'est l'expression, être remis à la terre. Et la terre, elle est pour les hommes. Notre petite planète, elle est pour tous les hommes. Quelle est la place de Marthe? Moi, c'est souvent ce que je me pose comme question. C'est la question du théologien. J'avais plusieurs fois rêvé de faire une charte des foyers. Mais comment on fait une charte? C'est une charte de l'alliance. Vanier, par exemple, demande une charte avec les pauvres. Il y a une alliance qui est particulière. Qu'est-ce que Marthe apporte de nouveau à l'Église? Et pour tous ceux qui ont été sous la dépendance ou l'influence ou l'amitié avec Marthe, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Je crois que c'est très important. Ça. Moi, je voudrais beaucoup que chaque membre de la communauté Saint-Jean reçoive une marque spéciale d'un lien avec Marthe, dans l'oraison, dans la prière. Pas d'une chose charismatique. Je ne vais pas demander que tous les frères de Saint-Jean aient les stigmates pour ressembler à Marthe, pour qu'on voit bien. Ils sont marqués. Ce serait très gênant. Puis c'est pas les mœurs du Saint-Esprit, c'est pas ça. On n'universalise pas les charismes. Parce que les charismes, c'est toujours quelque chose de très individuel. Donc on les universalise pas. On n'universalise pas le charisme de prophétie. On n'universalise pas le charisme d'avoir des stigmates, non. Ce serait une copie. Et ça viendrait pas directement du Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, ça ne s'universalise pas, ça. Autant. L'intelligence s'universalise. Autant tout ce qui est directement de l'ordre de l'amour est toujours quelque chose de particulier, d'individuel. Et quand cet amour est lié à un geste charismatique, comme pour Marthe, c'était, j'allais dire, son charisme propre qui prenait toute sa personne. Vous voyez, d'abord, d'habitude, les stigmatisés, ils sont mobilisés quant à leurs pieds, quant à leurs mains, quant à leur cœur, quant à leur tête. Mais ils ont encore une possibilité d'autonomie. Ce qui était très particulier à Marthe, et je pars de là parce que ça, c'est le signe visible, personne ne peut le nier, ça. C'était que tout son corps était pris par le charisme. Puisque normalement, elle aurait dû mourir. Et c'est vrai que si Marthe vivait et vivait de cette manière si extraordinaire de vitalité humaine et divine, c'était au-delà de son état. Son état était un état de quelqu'un qui n'était plus de cette terre, d'une certaine manière, puisqu'elle vivait uniquement de l'oxygène, de l'air, ne mangeant plus, dormant plus, et tout le temps immobilisée dans son lit, et dans l'état d'un petit enfant qui est dans le sein de sa mère, repliée sur elle-même. Donc dans un état de fragilité, de petitesse, une fragilité extraordinaire, parce que vous savez bien qu'elle devait vivre dans l'obscurité. Elle vivait dans l'obscurité à cause de la fragilité de ses yeux. Et que si la lumière avait frappé ses yeux, elle ne pouvait plus avoir conscience et vivre. Elle tombait dans un état d'inanition, en raison même de sa fragilité. Je crois que ça, c'est très important de voir que ce charisme de fragilité de Marx, c'est peut-être ce qu'il y a de plus frappant. C'est le charisme de la précarité d'un petit être tout petit, plus fragile qu'un enfant dans le sein de sa mère. C'est une fragilité étonnante. Et on ne voyait pas assez. Et Marx devait beaucoup souffrir en voyant combien beaucoup, quand il allait auprès d'elle, ne faisait pas attention. Quand le père Fidé faisait la remarque, ne touchez pas son lit. Faites attention parce qu'elle ressent tout et ça la fait souffrir. Mais des quantités ne faisaient aucune attention à ça. Et Marx ne disait rien. Et j'essaie de comprendre, vous voyez, un théologien ami, un théologien qui demande au Saint-Esprit de comprendre, il faut qu'on fasse tout cet effort-là. Puisqu'on est proche d'elle. Je crois qu'il y a quelque chose de très très particulier, mais au plan visible, au point de vue de la manifestation, donc au plan charismatique. Et comme le charisme était inscrit dans sa chair, dans son corps, dans ses yeux, sur son front, dans ses mains et ses pieds, et dans son cœur, on peut dire que c'est à partir de là qu'on doit s'approcher au point de vue théologique, et ensuite essayer de comprendre le message qu'elle a transmis. Je crois qu'on peut dire que cette fragilité de quelqu'un qui devait vivre dans l'obscurité, donc qui ne pouvait plus vivre comme nous de la lumière du soleil. Vous savez bien, une plante, hein, quand elle ne vit plus de la lumière du soleil, ce que ça fait. Et elle était comme coupée de ça. Et Dieu l'avait coupée de ça. La mettant biologiquement dans un état de fragilité tel, puisque la colonne vertébrale était cassée en haut. C'est le père Colomb qui m'a dit ça, je n'ai pas vérifié moi. Mais je présume que tout ça sera dit avec beaucoup de force par des médecins qui l'ont vu. Que la colonne vertébrale était cassée, donc normalement elle aurait dû vivre entièrement dans un pot d'acier. Entièrement en dépendance dans un hôpital, et elle aurait vécu artificiellement pendant quelque temps. Et si elle vivait comme ça, c'était l'action directe de Dieu et de la toute-puissance de Dieu. Donc c'était un miracle permanent. La vie de Marthe au milieu de nous était un miracle permanent. Toute sa vie terrestre était miraculeuse. Et ça, je crois que c'est très impressionnant. C'est pas le monde des charismes, c'est. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui lie au sépulcre. Parce que le corps du Christ ne pouvait pas connaître la corruptibilité parce qu'il était lié au Verbe de Dieu. Et le Verbe est devenu chair au sens fort, vous voyez, au sens joannique, au moment de la mort. Puisque le Verbe subsistait dans le cadavre. Et le cadavre, c'est la chair. C'est une chair même non vivante. Donc c'est la chair au sens le plus fort, le plus radical, le plus fondamental. C'est très fondamental, voyez, Marthe. C'est peut-être ça qui est si frappant. C'est parce que c'est quelque chose qui prend tout. Et c'était ce qu'il y avait de si impressionnant chez elle. C'était quelque chose qui prenait tout. Et c'est pour ça que je crois que le mystère de Marthe est très lié au mystère du sépulcre. Pas seulement parce que quand on entrait dans sa petite chambre, on voyait plus clair du tout. Et on entrait comme dans des catacombes. C'était impressionnant ça. Mais on s'y faisait au bout de quelque temps. Mais c'est parce que tout son corps était comme saisi par la toute-puissance de Dieu. Ça ne veut pas dire que son âme n'informait pas son corps, mais de fait, il fallait une puissance spéciale de Dieu pour que son âme informe son corps et que son corps continue de vivre. D'une vie extraordinairement réduite au niveau humain, au niveau biologique, et extraordinairement forte au niveau spirituel. C'était impressionnant, ça. Complètement impressionné dans la qualité de son intelligence. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi intelligent que Marx. Et son intelligence se manifestait tout le temps dans ce souci de précision et d'interrogation. Quand Marthe posait des questions, et c'était aux théologiens qu'elle les posait, elle n'aimait pas beaucoup les théologiens, vous savez bien, elle avait toujours un peu peur des théologiens, qu'elle avait peur que les théologiens lui posent des questions. Moi, je n'ai pas posé de questions, mais quand elle posait des questions, c'était extraordinaire de voir la manière dont elle les posait, et la manière dont elle voulait tout le temps aller le plus loin possible dans la vérité, un souci d'une vérité étonnante. Une horreur du mensonge. Pourquoi elle n'aimait pas les journalistes? C'est à cause de ça. Parce qu'ils falsifiaient. Parce qu'ils amplifiaient. Ce qu'ils disaient pas la vérité. Et en même temps, qu'il y a cette intelligence, cette volonté aimante, ce cœur extraordinairement tendre et bon et miséricordieux. La miséricorde de Marthe, ça rappelait directement la miséricorde de Jésus et de Marie. C'est une miséricorde qui allait extrêmement loin. Mon expérience là-dessus est très très nette au moment des retraites des prêtres. Au moment des retraites des prêtres, le père Vinet me disait toujours que c'était une semaine où Marthe s'ouvrait spécialement. Et la semaine, la passion était particulièrement douloureuse cette semaine-là, parce qu'elle portait tous les prêtres qui étaient en retraite, et avec les prêtres, tous les soucis de ces prêtres. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'était de voir la manière dont elle prenait ces prêtres. Et il y en avait, je vous affirme, qui venaient à Châteauneuf dans des situations tragiques. Il n'y avait pas que des très bons vieux prêtres à Châteauneuf. Il y avait les très bons vieux prêtres fidèles, ça c'est très vrai. Mais ça c'était beau. C'était dans une maison de retraite, c'était tout à fait ça. C'était des bons vieux qui revenaient tout le temps, tout le temps. Et puis il y avait des cas tragiques. Et qui venaient là parce qu'ils savaient que là ils trouveraient la miséricorde. Alors, ce que je constatais tout le temps, on le constatait avec les autres retraites, mais on le constatait encore beaucoup plus fort avec les prêtres. Vous verrez, quand vous prêcherez des retraites aux prêtres, que c'est une des choses les plus difficiles. Les prêtres et les religieux, c'est une des choses les plus difficiles. Parce que les prêtres et les religieux savent. Alors, c'est très difficile. Les religieux ont cette grâce de ne pas savoir. Et donc, d'être toujours avide de recevoir la parole de Dieu. À ce point-là, elle me ressemble à Marie. Mais les prêtres et les religieux, ils savent. Ils se sentent tout de suite. Alors, on sent très bien qu'il ne faut pas prêcher trop longtemps, qu'il ne faut pas dire des choses trop extraordinaires, parce que autrement, c'est un petit jugement, un petit sourire sceptique sur le coin. C'est une des choses les plus difficiles. Je vous affirme que j'ai commencé des retraites à Poissy, des retraites de prêtres, et au bout de plusieurs, j'ai dit au père Hébrard, je ne prêcherai plus de retraite à Poissy. De retraite de prêtres à Poissy. C'était impossible. Il aurait fallu se mettre en colère chaque fois. La manière dont ils s'écoutaient. Il y avait une grâce à Châteauneuf qu'on pouvait prêcher des retraites aux prêtres. Et ça, c'était une grâce qui venait directement de Marthe. Et c'était très, très sensible. Et la retraite des prêtres, c'est toujours dur. Donc, je vous disais, c'est pénible, c'est pas commode. Surtout au début de la retraite, parce que la dispersion, chacun de ces prêtres présentait normal. C'est. Je n'accuse pas les prêtres en disant ça. Je constate. Comme c'est difficile de vivre actuellement d'un recueillement, actuellement d'une soif de contemplation. Eh bien, quand, au milieu de la retraite, commençaient les visites à Marthe, et quand les prêtres revenaient de la visite à Marthe, alors la retraite se passait très très bien. C'était comme des enfants. Ils avaient vu une mère. Ils avaient vu quelqu'un qui était une source de miséricorde pour eux. C'était pas les lumières que Marthe amenait, non, pas du tout. Marthe envoyait au prédicateur quand il s'agissait. Tout le temps. Et les prêtres qui avaient des tas de difficultés ordinairement à parler avant, on disait aller voir Marthe, et quand ils revenaient de voir Marthe, c'était extraordinaire de voir le changement qu'il y avait. Parce qu'il y avait un puits de miséricorde, une source de miséricorde étonnante. Et Marthe leur redonnait l'espérance, leur redonnait confiance. Avec toutes les difficultés, il y a eu une foi encore extraordinaire. Du reste, ce prêtre l'a dit à la fin de la retraite publiquement. Il a dit que Marthe, il y en avait sûrement ici qui était présent. Pas beaucoup, puisqu'il y en avait beaucoup qui étaient présents à ses retraites, mais de la communauté Saint-Jean, puisqu'à la fin, la communauté Saint-Jean était présente à la retraite des prêtres. Et un renversement complet de Marthe, un cas désespéré. Conversion profonde du cœur, vous voyez, plus impressionnante que tout le reste, hein. C'est plus important que tout le reste, hein. Parce que ça, c'est l'action directe du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Là, on touche, vous voyez, je crois personnellement, la grâce propre de Marthe, c'était de toucher l'ultime miséricorde du Christ et de Marie. Vous voyez ce qu'il y avait d'ultime dans son charisme, parce que son charisme, encore une fois, est ultime. Je crois qu'il n'y a pas une stigmatisée qu'il n'a été comme Marthe. C'est quelque chose d'ultime dans l'ordre du temps, dans l'ordre de l'intensité et dans l'ordre de l'extension de tout le corps qui était pris. Ce charisme exprimait quelque chose de profond, de très grand, cette miséricorde de Marie. Et je dirais, voyez, si on est attentif au mystère de la compassion, ce que nous devons être attentifs au mystère de la compassion, je dirais, c'est notre tâche propre dans l'Église, c'est de donner la théologie de la compassion et de vivre de la théologie de la compassion. Nos sœurs contemplatives doivent vivre du mystère de la compassion. Achever, compléter ce qui manque à la compassion de Marie. Alors voyez, ça va très loin. Dans le mystère de la compassion, c'est Marie vivant l'agonie, Marie vivant la croix, Marie vivant le sépulcre. Et donc ce qui est ultime dans le mystère de la compassion, c'est le mystère du sépulcre. Ce qu'on regarde très peu du reste. Et c'est ce qu'a dû le dire dans le mystère de la compassion. Et je suis sûr qu'en regardant très profondément le mystère de la compassion, dans le moindre du mystère du sépulcre, on comprendrait des quantités de faits dans la vie de Marthe. Et cet aspect de la miséricorde dans ce qu'elle a d'ultime, la miséricorde sacerdotale de Jésus à travers le cœur de Marie, à travers le mystère de la compassion, c'est Jésus, le corps du Christ, le cadavre du Christ, le cadavre de l'agneau qui porte l'iniquité du monde, qui est dans le sépulcre et qui est instrument de miséricorde, qui est sacrement de la grâce. Et donc cet état ultime d'humilité, de petitesse, subsiste dans le verbe. Et donc, le cadavre est l'instrument de la grâce. Tu as voulu que l'instrument de la grâce soit en dernier lieu un cadavre. Ça ne m'intéresse pas cette question. Regardez dans la somme théologique, c'est intéressant à regarder. Dans la somme théologique, regardez ce que saint Thomas dit sur la sépulture de Jésus. Et vous verrez qu'il dit très très peu de choses. Restez sur votre faim. Ce qu'il dit est intéressant, c'est toujours intéressant et c'est beau. Mais il dit très peu de choses. On sent bien que c'est comme un mystère qui nous est réservé à la fin des temps. Et que Satan ne veut pas insister tellement sur ce mystère du cadavre de Jésus et de la descente de son âme aux enfers. Que les deux se tiennent. Cette séparation vécue dans le mystère du Verbe de Dieu et cette séparation vécue dans le cœur de Marie. La descente aux enfers de l'âme de Jésus, de l'âme qui subsiste dans le Verbe, de l'âme divine du Christ et du cadavre divin de Jésus. La miséricorde du Père qui veut se servir du cadavre pour aller jusqu'au bout de sa miséricorde. Vous savez bien que la miséricorde ultime prend une note de pauvreté. Quand on est très très miséricordieux, on est pauvre en exerçant la miséricorde. Vous n'avez qu'à réfléchir un instant sur la manière, ça me frappe toujours beaucoup, parce que ça c'est un geste qui vous reste gravé dans la vie, dans la mémoire et dans le cœur. La manière quand un gosse tombe, la manière dont le père le relève, il faut prendre ça comme un instantané, hein, parce que la manière dont le père le relève et la manière dont la mère le relève. Le père dit, donne-moi la main. Et le gosse, s'il est très très blessé, il ne peut même pas donner la main. La mère, elle se penche et puis elle le prend. Elle descend plus bas que lui. Alors, est-ce que c'est pas ça le mystère du cadavre de Jésus? Comme instrument de la miséricorde, on sait bien que Dieu descend plus bas que nous. Et donc, aucune faute est en dehors de cette miséricorde qui est maternelle, parce qu'il y a quelque chose qui relie le cadavre à la mère. Le point de départ est le terme. Les pères de l'Église ont toujours fait le parallélisme entre les deux. Entre les catacombes joyeuses en Marie et les catacombes ténébreuses dans la terre. Et c'est vrai qu'il y a deux catacombes. Ça explique beaucoup de choses pour nous. Les catacombes joyeuses que l'Église a connues et que Jésus a connues en Marie. Quand Jésus était porté par Marie comme un tout petit enfant, c'était les catacombes, mais des catacombes joyeuses. Et tout était joyeux. Et Marie a été une maman plus joyeuse que toutes les autres mamans quand elle attendait son premier-né. La joie d'une mère qui attend son premier-né. Mais la joie de Marie était plus grande que tout ça. C'est des mystères qui ont été d'une joie prodigieuse en Marie. Mais c'est quand même des catacombes, il est caché. Le peuple d'Israël qui a la grâce de posséder la présence du Verbe devenu chair et du Messie. Le peuple d'Israël ne connaît rien. Les théologiens, le Sanhédrin, n'y connaît rien. Ils connaissent rien, ils continuent. Ils continuent comme si rien n'était. absolument bu. Source de vie de façon parfaite. C'est pour ça que tout est joyeux. Tandis que les catacombes qui terminent la vie de Marie, les catacombes, c'est une terre glaciale. C'est notre terre qui n'est pas immaculée. On le sait bien. Puisque la répercussion de la faute passe sur tous les vivants et même sur la terre. Il y a une répercussion très difficile à analyser, mais elle existe. Et Jésus est remis, même si on a eu le tact de remettre Jésus dans un tombeau qui n'avait servi à personne. Ça, c'est la délicatesse des hommes. C'est-à-dire de Joseph d'Arimathie, d'un homme magnanime, grand. Mais au point de vue de Dieu, il est remis à la terre. Il est remis à l'anonymat de la terre. Il est remis à l'obscurité de la terre. Et dans la terre, comme je disais tout à l'heure, il n'appartient à personne. Il est à tout le monde. C'est ça le problème d'être remis à la terre. Et les paroles savent très bien ça, qu'on arrache l'enfant au dernier lieu, à la maison, puis qu'on le conduit à l'église et de là au cimetière. Le cadavre du Christ est remis à la terre. Donc dans cette pauvreté, cet anéantissement ultime et dernier, et le Père se sert du cadavre comme instrument de miséricorde pour montrer que la miséricorde descend plus bas que le pécheur, puisqu'elle enveloppe la conséquence du péché qui est la mort et qui est de retourner en poussière. Jésus a accepté cette condition du cadavre. Il n'est pas retourné en poussière, ça aurait été contraire au mystère même du Verbe incarné. Mais il accepte cette condition d'être remis à la terre. C'est donc pour exprimer cette miséricorde enveloppante, cette miséricorde maternelle, cette miséricorde qui va jusqu'au bout dans l'humilité et la pauvreté. C'est l'ultime miséricorde, je crois, qui sont donnés là. Et l'âme descend en enfer pour exercer cette miséricorde vis-à-vis de tous ceux qui sont déjà morts et qui attendent le Messie, qui attendent d'être délivrés de façon ultime de cette attente. Parce que quand on attend, on est lié au temps. J'allais dire, on est aliéné par le temps. On est mesuré par le temps. C'est ça le problème de l'attente. C'est pour ça que ça nous impatiente d'attendre. Et Jésus est libéré de cela. Et l'âme de Jésus, je veux dire, Jésus est libéré et il veut libérer. Et c'est cette grâce de libération, cette miséricorde de libération à l'égard de tous ceux qui attendent dans les enfers la venue du Messie. Et c'est une grâce de délivrance dernière, ultime. Il fallait cela pour qu'il puisse entrer dans la vision béatifique et être complètement libéré du temps. Parce que quand on est dans la vision béatifique, on est complètement libéré du temps. Puisqu'on vit d'éternité et on participe à l'éternité. Vous voyez bien ces deux miséricordes particulières du mystère du sépulcre. Ces deux miséricordes, Marie les a vécues. Et c'est peut-être cela qui caractérise son mystère de compassion par rapport au mystère du sépulcre. Vivre cette ultime étape de pauvreté, d'humiliation, cette ultime sacerdoce de Jésus qui vient libérer de ce conditionnement du temps et qui vient libérer tous les hommes. Marie a vécu ce mystère du sépulcre dans sa foi, son espérance et son amour. Et je crois qu'elle était seule à le vivre. Vous voyez, d'une façon tout à fait différente que pendant l'Annonciation, que pendant l'Avent. Pendant l'Avent, elle était seule parce que les autres ne connaissaient pas. Tandis que du sépulcre, les autres connaissaient, mais connaissaient matériellement et ne connaissaient pas vraiment. Vous voyez la différence du point de départ et du terme de la vie chrétienne, du pèlerinage de l'Église sur la terre. Au début, il n'y a que quelques chrétiens, les apôtres, quelques chrétiens, un petit nombre de chrétiens. Au terme, tout le monde sait, mais matériellement. Et que ceux seuls qui vivent l'année mariale, je crois qu'on peut le dire, que seuls ceux qui vivent l'année mariale, qui vivent tout à fait liés à Marie, peuvent vivre ce mystère du sépulcre, cette double miséricorde. Je crois. Bien, je crois que Marthe nous donne un sens très très particulier de ce mystère du sépulcre pour notre Église. C'est pas pour rien, voyez, que d'une certaine manière, c'est tout le XXe siècle qui est ponctué par Marthe, 1902, 80, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Avant le Concile, après le Concile, et Marthe prophétiquement était une grâce qui nous était donnée pour qu'on comprenne le Concile. Et qu'on ne suit on ne se durcisse pas. On accepte cette transformation, ce renouveau voulu par l'Esprit Saint. C'est toujours très difficile pour des hommes faits d'accepter de retourner dans le sein maternel. Mais les Nicodèmes de tous les temps, surtout quand ils ont une autorité, quand on est vieux, peut-on retourner dans sa maternelle. Or, il faut, je crois, cette souplesse d'amour. Retourner dans sa maternelle pour accepter pleinement ce renouveau de l'Église. Ceux qui sont nés après, ils respirent ça comme l'air normal. Il ne faut pas qu'ils opposent ce qui était avant et puis ce qui est vécu. Mais ceux qui étaient avant, il voit très bien ce que ça représente comme souplesse divine. Et c'était Marthe qui faisait ça. On verra au ciel que c'est peut-être la grâce de Marthe qui a permis qu'on ne tombe pas dans le panneau du progressisme ou du traditionnalisme opposé à Vatican II. Et je dis bien qu'on ne tombe pas dans le panneau, ceux qui considèrent que Vatican II, eh bien, c'est le début de l'Église. Et qu'on doit expliquer, puisque ça a été dit, Vatican II en fonction de Vatican III. Et Vatican III, vous savez bien, selon ces mêmes théologiens, et dedans il y avait des gens très éminents, Vatican III doit s'expliquer en fonction de tout ce qui a été refusé, des propositions des experts. Alors toutes les propositions des experts qui ont refusé, au fond, exprime Vatican III. Alors ça, c'est une attitude qui existe. Faut pas dire qu'elle n'existe pas, et elle existe encore maintenant. Parce que quand on est dedans, c'est très difficile d'en sortir. Exactement comme l'autre attitude. Il fallait une souplesse d'un petit enfant qui retourne dans le sein maternel. Pour retourner, pour accepter ça. Et je crois que c'était le rôle de Marthe dans l'Église. c'est un vie du mal de Marie. Et d'une manière ultime, vous voyez, quand je dis le sépulcre, je n'exclus pas l'agonie et la croix, comprenez bien. L'agonie et la croix sont présentes en sépulcre, mais le sépulcre représente quelque chose d'ultime. Et c'est ça que je souligne. Marthe représente quelque chose d'ultime. Et ça, personnellement, j'en suis convaincu. C'est pour ça que c'est, j'allais dire, si difficile à entrer pleinement dans ce que Marthe, sous le souffle de l'Esprit Saint, en dépendance de Marie, voulait nous transmettre et veut nous transmettre actuellement encore. Vous savez, je fais souvent le point avec Marthe. On ne peut plus aller à Châteauneuf auprès d'elle, mais on peut y aller directement. C'est lamentable, pas besoin d'aller à Châteauneuf. On peut y aller directement. Demander à Marthe de faire le point. C'est mieux que tous les conseils de faculté, tous les conseils de formation. Et c'est Marthe, c'est ce qu'elle vient de dire. Elle dit, vous allez à votre cheveu, moi je viens au mien. Alors elle avait Catherine, nous avons Marthe. Et on sait qu'elle est à notre disposition, magnifiquement. Pas besoin de faire d'attendre au bois du feu. Pas besoin, on entre directement. Et elle donne la lumière, ou pas une lumière extraordinaire, pas du tout. Non, d'une façon intérieure. Marthe demande toujours cette très grande attention aux événements. Aux événements de Dieu. Et vous voyez, c'était ça qui avait de plus beau en elle, c'est qu'il n'y avait pas de projet. Et c'est ça, je crois, aussi le mystère du sépulcre. Quand on faisait tous des projets devant elle, elle disait peut-être. C'était merveilleux. Peut-être. Je ne jouais pas du tout au rôle de. Je vous ai dit cet exemple qui m'a beaucoup frappé. C'était un retraitant, c'était pas un prêtre. Un retraitant qui est venu tout malheureux après avoir vu Marthe. Et il est revenu parce qu'il avait été chassé de la chambre de Marthe. Marthe avait chassé. Non, elle pouvait être terrible. Pourquoi? Parce qu'il est venu auprès de Marthe pour savoir ce qui arriverait le lendemain, ou dans quelques années, s'il y avait une guerre qui se préparait, ou bien s'il y avait des choses comme ça, vous voyez. S'il fallait partir au Canada, pour que sa famille soit tranquille. Et Marthe lui a dit, je ne suis pas une diseuse de bonne aventure. Je ne suis pas là pour annoncer ce qui arrivera demain. Et elle m'a mis à la porte. Si vous venez pour ça, vous vous trompez. Les fidèles pouvaient se tromper. Hein. Le messianisme temporel, c'est vite fait. Et Marthe n'acceptait pas la compromission. Et elle renvoyait. Quand elle ne pouvait rien dire, elle se taisait. Et alors quand on lui demandait, est-ce que c'est vrai que vous avez dit ça, Marthe? Ça, je l'ai moi-même éprouvé plusieurs fois. Est-ce que c'est vrai que vous avez dit ça, Marthe? Alors Marthe prenait sa petite voix. Elle disait, mais vous savez bien, beaucoup, quand ils viennent, ils racontent leurs histoires, leurs projets. Et si je me tais, ça prouve que c'est moi qui l'ai dit. C'est très très joli, ça. Marthe ne contredisait pas, puisqu'on ne lui demandait pas son avis. On lui disait ça avec le désir qu'elle approuve. Alors elle ne disait rien. La correction fraternelle se fait quand on est capable de recevoir la correction fraternelle, autrement elle ne se fait pas. C'est pour ça que c'est toujours un signe de miséricorde quand on reçoit une correction fraternelle. Parce que ça prouve que celui qui nous l'a fait sait qu'on est capable de changer. Autrement il ne dirait rien. Et il laisserait glisser, glisser. Marthe, très souvent, se taisait. Et alors, elle disait, vous savez bien, une telle, quand elle vient, elle parle tout le temps, et elle croit que c'est moi. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'on a fait dire à Marthe des tas de choses qui n'étaient pas de Marthe. aussi, c'est très beau, c'est une miséricorde ultime. Tout ça, c'est des miséricordes ultimes. Laissez les gens bavarder. Rien dit. Marthe, vous pouvez rien dire. Vous pouvez pas dire, mais non, c'est pas de moi, c'est pas de moi. Non, non. Elle aurait dit ça toute la journée. Elle se serait défendue. Marthe se défendait jamais. Elle est mieux. Elle aimait mieux passer pour dire des choses quasi contradictoires. C'est extraordinaire, ça. Ça aussi, c'est un signe mystère ultime de la miséricorde. C'est que certains l'ont opposé à Catherine de Sienne. C'était de jamais opposer une mystique à une autre mystique. Hein, parce que chacune sont pour le temps qu'il faut. Catherine de Sienne, c'était pas le sépulcre. Catherine de Sienne, c'était pour le grand combat des papes Avignon et des papes Rome. Hein. Ça, c'était pour ça, grand combat, qu'elle dit ouvertement, alors. Tandis que Marthe, si c'est le mystère du sépulcre, on peut pas dire plus, hein. C'est le théologien qui essaie de comprendre. Alors, on comprend très bien cette attitude, qui a dérouté certains, qui a dérouté tous ceux qui étaient des rationalistes, qui pouvaient pas comprendre. C'est impossible. Parce que le mystère du sépulcre, mais oui, au point de vue raison, hein. Vous avez dit trois mots, il a été remis à la terre. Et pourquoi le sens? Et si l'Église doit vivre le mystère du sépulcre comme Marie l'a vécu, vous comprenez? Que Dieu nous donne un signe très profond, très très divin, un signe vivant et inscrit dans la chair, inscrit dans le sang. Proche de nous. Ah, vous comprenez que c'est important pour nous. Quand je dis que la communauté Saint-Jean est née auprès de Marthe, quand je dis ça, je ne dis pas du tout quelque chose qui est d'ordre rhétorique. Je dis, c'est le choix préférentiel de Dieu qui a passé par le cœur de Marthe. Et l'état dans lequel était donc lié au mystère du sépulcre. On est lié au mystère du sépulcre. Ça, je peux pas m'en séparer. C'est impossible. Ça veut dire, c'est pas trop, là. Tiens, on peut rien. C'est très grand, voilà ce que je peux dire. C'est très grand. C'est le mystère de la compassion dans ce qu'il a dû. Lié à l'agonie, lié à la croix. Et dans ce moment ultime de la miséricorde la plus maternelle de Marie, de la miséricorde la plus profonde, la plus pauvre, la plus réclamant la plus grande pauvreté. C'est pour ça que Marie ne veut pas que dans la communauté on fasse une espèce d'élitisme, comme certains le feraient. Oh, faut pas recevoir un tel, non. Voyez ça, l'image de Marc de la communauté, ça va descendre d'un cran. Tandis que si vous avez des types remarquables, du moins humainement remarquables, l'image de Marc remonte. Il n'y a plus d'image de Marc au sépulcre. Plus du tout. À la rigueur, à la croix, on peut encore en avoir. Mais là, au sépulcre, plus du tout. Plus rien du tout. C'est pas commun de vivre ça. La miséricorde la plus maternelle de Marie, qui reçoit les plus petits, les plus pauvres, les plus... Et c'est ceux-là qui sont à l'aise dans la communauté. Ça exige une très grande pauvreté. Une pauvreté qui éveille notre intelligence au mystère de l'amour, au mystère de la miséricorde. Prépare le retour de Jésus et qui doit préparer le retour de Jésus. Vous voyez le mystère de solitude du sépulcre, mais en même temps le mystère du témoignage. J'en témoin. Témoin de la blessure du cœur de Jésus. Et c'est j'en témoin de la blessure du cœur de Jésus qui nous fait comprendre toute la note apostolique. Apostolique. une solitude fermée sur elle-même. C'est une solitude source qui permet de témoigner de l'amour et de témoigner de l'amour pleinement et totalement. Puis ça m'a beaucoup frappé en allant assister à Sisteron là-bas, comme en allant, je vous ai dit, au Texas. C'est très important de comprendre ce que la Providence nous permet de vivre. Mais alors il faut être très attentif, sans aucun a priori critique. Dès qu'on a un a priori critique, l'Esprit Saint n'éclaire plus. C'est peut-être ça la plus grande exigence du mystère du sépulcre. Je crois que ça exige de nous d'aller très loin du côté de l'intelligence, mais sans aucun a priori critique. Une intelligence totalement au service de l'amour. Une intelligence qui caille très loin dans cette exigence de l'amour, qui fait qu'à ce moment-là, tous peuvent trouver leur bien. Plus ou moins vite, hein, c'est évident. Mais c'est quelquefois, vous savez, ceux qui vont très vite, qui plafonnent très vite après. Tandis ceux qui sont très lents, j'ai rien compris la première année. Je dis tant mieux. Moi non plus, j'avais rien compris la première année. Je commence à comprendre la seconde année. C'est l'espérance, c'est très bien. Continuez. La troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. L'avantage, c'est que ça continue toujours. Tandis que celui qui a très bien compris la première année, ça s'arrête. C'est pas pourquoi. Ça s'arrête au bout de 2 ans. Plus aucune profondeur. Il n'y a pas de racine. Mystère de l'enfouissement. Le grain de blé tombé en terre qui meurt pour porter beaucoup de fruits. C'est le mystère des sépulcres. Il faut demander à Marthe cette intelligence divine du mystère du sépulcre. C'est tellement important pour nous. Puisque nous sommes liés. Ça, Dieu l'a voulu. Si Marthe n'avait pas été là, je ne sais pas ce qui sera arrivé. J'en sais rien. J'en sais rien. Tu aurais sans doute mis quelqu'un d'autre à côté. C'est sûr, c'est possible. Mais il fallait que ce soit Marthe porte la communauté en gestation. C'est vrai, elle a porté la communauté en gestation. Et pendant toute la gestation de la communauté, c'est Marthe qui la portait. Il fallait qu'elle la porte, parce qu'à ce moment-là, les moindres difficultés auraient fait des gauches